Merci pour cette exposé rapide et étudiante. Alors, tu voulais pas parler de méthode, mais il y a quand même dans ton travail quelque chose qui est que moi, en plus tu m'as envoyé des choses, donc j'ai lu aussi d'autres choses que j'apprécie beaucoup, c'est cette capacité à s'attaquer à la complexité de la question en travaillant aussi bien au niveau macro, méso que micro. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est assez rare de ce point de vue-là, d'arriver à articuler avec assez de justesse et sans transe les trois niveaux. Ça permet vraiment d'avoir une espèce de phénomène social total qui se dégage sur le constat qu'on a l'habitude de faire, effectivement, de la discrimination envers les migrants, que tu analyses à partir du couple mixte, considère comme un outil, dans certains articles que tu as écrits, et en plus un outil pluridisciplinaire, puisque tu t'adosses à la fois à la sociologie, au juridique, et je trouve que c'est tout ce que tu nous livres là, c'est pas juste le résultat d'enquête, c'est vraiment, on sent que tu as une démarche en train de se faire qui est de plus en plus fine et complexe. Après, on verra, enfin, je ne sais pas si c'est l'heure de parler de ça maintenant. Dans la mesure où tu tiens à la fois le niveau macro, méso et micro, je pense qu'il va falloir, moi ce que j'aimerais, c'est que à l'avenir, tu puisses exacerber en fait les deux niveaux. Par exemple, tu parles aussi quand tu parles des stratégies de résistance des couples, je pense qu'il y a vraiment encore des choses encore à creuser par des observations participantes très fines, très longues. Moi, je me souviens d'avoir fait des années de dessins au guichet du service public pour voir un petit peu justement pour voir les postures physiques. Enfin, il y a tout un ethos corporel qui participe aussi de ce que j'ai appelé la coproduction au guichet. Parce qu'il y a, vraiment, il se passe des fois des choses, les agents étant de plus en plus pressurisés par ces injonctions paradoxales, dont tu parles, à la fois garantir une protection et en même temps contrôler un maximum pour éviter que les non-méritants ne puissent devenir des moutons noirs dans une communauté nationale. Donc il y a vraiment des choses à affiner encore de ce point de vue-là. Ça pose la question, tu parlais des pouvoirs discrétionnaires. Il y a aussi la question, en miroir du pouvoir discrétionnaire, qui permettrait de travailler les choses de façon peut-être moins unilatérale, c'est la question de la dérogation. Justement, quand on observe ce qui se passe au guichet d'une préfecture ou des choses comme ça, quand on voit qu'à un certain moment, l'agent est complètement dépassé, on a ras-le-bol quelque part d'être pressurisé, il y a une forme de complicité qui peut se nouer. Sans invalider tout ce que tu dis du cadre européen, des cadres nationaux et de la pression forte des rapports de domination et des relations discriminatoires au niveau méso, évidemment on est d'accord sur le constat, mais je veux dire pour descendre un petit peu dans l'épaisseur du social, de travailler la dérogation à partir de cette coproduction au guichet du service public. Des fois, la logique de la suspicion, elle est toujours accompagnée des dispositifs qui était ouvert sur les questions qui touchent les étrangers. Et des fois, les gens qui n'ont pas de date de naissance, ça suffit. Enfin, je veux dire, tellement de prétextes à stopper un dossier. Mais des fois, il se trouve aussi que quand on se groupe le dossier à cette grosse machine, il y a des accointances, c'est des petits arrangements, ça s'appelle des petits arrangements au guichet qui permettent de passer, dire à un guichetier qui vous dit ça je ne l'ai pas entendu, ça je ne le marque pas, ça bon. C'est des choses qui sont hyper fines, qu'il faut repérer aussi, à mon avis, pour être dans le bout du bout de ce travail de sociologie compréhensible que tu fais à ce niveau-là. De la même façon, je pense qu'il y a peut-être un champ de recherche qui peut-être existe par ailleurs, mais je suis très. je réfléchis à chaud aussi. Par rapport au fait qu'au niveau macro-sociétal, il y a un adoucissement direct vis-à-vis des étrangers. Il y a quand même des économistes qui sont en train de dire, je pense à Thomas Piketty, qui analyse le fait que désormais, non seulement, parce que nous, quand sociologues, quand on travaille ces questions-là, on travaille ces questions-là par rapport aux valeurs, par exemple, les valeurs d'hospitalité ou d'inhospitalité, le cosmopolitisme, on a une envie de démocratie, de participation de tous, de citoyenneté du monde, on est un petit peu là-dedans. Mais les économistes sont un peu plus radicaux, je dirais, et d'après certains, donc, il semble qu'à l'échelle du monde, il se destine une manière de gérer l'économie à partir de dimensions raciales. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, ça je dis, sur les deux bouts de la chaîne, là, il y a au niveau macro-sociétal, voir un petit peu quitter le monde des sociologues qui nous jouent bienveillants, et qui va chercher pour aller voir peut-être des choses qui sont plus froides sur les... sans faire de prospective, bien évidemment, mais de se rendre compte, d'essayer de trouver des critères qui permettent de pointer en quoi le durcissement de ces politiques migratoires révèle une orientation politico-économique. C'est là où on aurait vraiment le lien. L'immigration a toujours été quelque chose d'économique, hein, je veux dire. Mais à l'échelle des nations, comme tu le dis, c'est quelque chose, je pense à Trump, je veux dire, qui va gérer son économie comme ça. Donc c'est pas un modèle, mais il est sans doute, il parle de quelque chose. Voilà. Et à l'autre niveau, d'arriver à lire un peu tout ce qui est de la dérogation, des petits arrangements en guichet, parce que la résistance me semble importante aussi. On le voit aujourd'hui aussi, alors ça c'est presque au niveau méso, aussi la résistance qui se fait par les citoyens, hein, par rapport à l'hospitalité aujourd'hui, sans tomber dans les clichés médiatiques, mais je veux dire qu'il y a quand même une manière aussi de s'organiser. Alors tu parles des associations, je pense qu'il y a vraiment deux faces, hein, de la médaille chez les associatifs. On le voit en ce moment, il y a une bataille, il y a tout un marché associatif de soutien à l'étranger qui est en train de se reconfigurer, hein, localement, parce que la question des réfugiés a été disséminée sur le territoire français, par exemple. On voit bien les ébullitions que ça concurrente. Il y a des concurrences entre des associations qui s'occupent des migrants et des réfugiés, qui est vraiment aussi très exacerbé. Voilà. Et puis pour finir, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, je suis très contente d'entendre que tu prennes la notion de réseau frontières, parce que je trouve que c'est quelque chose, enfin, Bruno Latour, qui nous avait initié à ça, n'a pas été très bien entendu. Moi je parle communauté, réseau, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très, très important, parce que justement, si on cherche, dans l'article apparaître, là, tu parles tu es passé par l'analyse stratégique de Crozier et Friedberg, et donc tu parles des zones d'incertitude et tout comme ça, donc il nous reste à savoir, je suis en matière de résistance, où se trouve le plus possiblement la capacité d'avoir du pouvoir de résistance, au sens prosérien, putain, pas prendre le pouvoir, mais avoir un peu de latitude à faire des choses, et donc de voir en quoi la partie humaine ou non humaine peut, par exemple, une lettre de mission qui n'arrive pas, qui n'est pas interprétée, que ce soit au niveau, on l'a vu déjà en France avec le réseau Clara, dans les régions, pas interprétée de la même façon, ainsi de suite, voilà. Donc, moi, je pense que c'est une belle ouverture.
Merci. Excusez-moi.